Vous écoutez À l'abordage, vendredi, c'est le moment de retrouver nos globetrotteurs. On va commencer par Alexandre Cracker. Alexandre Cracker, il voyage avec sa compagne Oksane Auget. Ils voyagent tous les deux en travaillant, c'est-à-dire qu'ils font principalement des mandats de traduction, pas dans les pays qu'ils visitent, mais pour la Suisse, par exemple. Ils utilisent toute la force d'Internet. Ils peuvent du coup travailler à distance tout en cheminant. Et s'ils ont beaucoup de travail, eh bien ils vont se poser dans un endroit avec un bon réseau quelques jours. Et quand c'est plus calme, ils visitent. Ça fait plusieurs fois que nous les entendons, toujours avec plaisir. On les a suivis à travers le sud du continent africain. Et la dernière fois qu'on a eu de leurs nouvelles, ils étaient en Géorgie, dans la capitale Tbilissi, un pays qui les avait charmés tout de suite. Ils y étaient depuis seulement quelques jours, mais le charme avait opéré. Et ils se réjouissaient du coup de le découvrir, ce pays, avec son vin particulier, sa nourriture intéressante, sa culture et ces gens qui conduisent comme des psychopathes. Ça, c'était il y a plusieurs semaines. Du coup, quand nous appelons Alexandre Cracker, on commence par lui demander s'il est toujours en Géorgie. Alors non, il est dans un pays voisin. On l'écoute. Réalisation Christian Morero.
Alors aujourd'hui, on est à Dilijan, en Arménie. C'est une toute petite ville qui est d'ailleurs dans une partie de l'Arménie qu'on appelle la Petite Suisse. Alors, c'est pas la première petite Suisse qu'on se tape hors de Suisse. En Ouganda aussi, ils ont leur petite Suisse. J'ai l'impression qu'il y a des petites Suisses un peu éparpillées dans le monde, comme ça. Alors, il n'y a pas la fondue, il n'y a pas de cervelas, il n'y a pas de rösti, mais il y a des jolies montagnes avec des petits arbres partout. C'est très ondulé, très verdoyant. C'est vraiment très très beau. C'est une vieille ville qui était très courue des artistes à une époque reculée, donc je pourrais pas dire exactement quand, qui est aussi une ville où je crois qu'il y a un peu des bains, etc., de l'eau minérale qui est censée guérir tous les maux, bien sûr. On a fait une balade magnifique hier et encore ce matin. Hier, on est allé se perdre un peu dans la montagne autour de d'ici, c'est un parc national, donc de forêt principalement. Et on est allé se balader dans la forêt, on est tombé sur un vieux monastère du XIIIe siècle, de 1247, ce frère. On sent vraiment le poids de l'histoire, c'était très impressionnant de voir ça. Et puis dans un endroit, mais il n'y avait personne, rien, nulle part. C'est vraiment fou, on a vraiment marché à travers la forêt. Ça fait très film d'horreur un petit peu comme ça, mais à la fois avec un côté très, très poétique, baudelairien un peu.
On va reparler de l'Arménie bien sûr, mais avant, la dernière fois qu'on vous parlait, vous étiez donc en Géorgie, ça fait déjà plusieurs semaines. Oui. J'ai en tout cas moi souvenir ému d'une sorte de fondue directement dans le pain avec du beurre et de l'œuf. Qu'est-ce que vous avez fait en Géorgie de manière plus générale depuis qu'on s'est parlé ?
C'est vrai qu'on a passé 5 semaines en Géorgie, donc on est allé un peu caresser toutes les frontières, on est un peu allé dans tous les sens. On est allé vers l'ouest, vers Koutaïssi, la deuxième ville. Là, il y a des canyons assez, assez merveilleux à aller voir, avec dont un où il y avait une espèce de petit chemin en bois qu'on pouvait prendre, emprunter en fait le long du canyon, mais au-dessus du canyon, donc à quelques centaines de mètres de hauteur, comme ça, un truc bien flippant, comme ça, c'était assez sympa. Ensuite, on est allé vers le nord, vers Kazbegi, donc à la frontière russe, et là, il y a un glacier gigantesque, on a pu faire des longues balades dans la montagne. Évidemment, on va de monastère en monastère, parce que la Géorgie et l'Arménie sont les deux premiers pays à adopter la religion chrétienne. Donc il y a aussi une bonne rivalité entre les deux pays, mais on en reparlera. On est allé aussi vers l'est, vers Kakheti, qui est une petite région qui a été envahie un nombre incalculable de fois, avec des petits villages un peu comme ça, à flanc de coteau, sur des très très longues plaines, et au loin les montagnes du Caucase, et puis la frontière aussi avec la Russie, en fait. Là, c'est encore la Russie, pas l'Azerbaïdjan. Et puis au sud, on est descendu vers un nom imprononçable, quelque chose comme Akhaltire, quelque chose comme ça, à 20 km de la frontière turque. On a vu des choses très 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 intéressantes. Il y avait des villes très hétéroclites, notamment dans le sud. On a vu une espèce de vieille citadelle avec à l'intérieur une mosquée. C'est vraiment épatant. C'est vraiment, on sent qu'on est, en voyant les gens aussi, on sent qu'on est vraiment à la frontière de une espèce de croisée des chemins entre l'influence perse qui vient du sud, la Turquie aussi avec l'influence musulmane, et puis les Russes, bien sûr, qui ont occupé pendant très longtemps cette partie-là du territoire. Donc il y a vraiment comme ça un mélange qui se sent un peu tout le temps, même si culturellement, ils sont très attachés à leur culture. Il y a une musique clairement géorgienne, les Géorgiens adorent faire de la musique. Et puis il y a la nourriture et le vin qui est complètement unique ici, en Géorgie, qui est très très bon d'ailleurs. Et ils ont carrément leur façon de le faire. Hein. Alors j'ai pas tout compris. On est allé visiter une fabrique de vin. J'ai pas complètement compris. Je suis pas tout à fait viticulteur, mais apparemment la façon de le faire est différente. Et puis le goût clairement est assez différent. Et puis alors les Géorgiens assurent qu'on peut en boire jusqu'à 5 litres sans avoir de maux de tête le lendemain. Moi je trouve ça bien, hein. Je trouve ça pas mal cool, quoi.
Sinon, on arrive à faire le portrait robot d'un Géorgien, c'est justement impossible parce que lui aussi est un croisement de différentes cultures.
Ouais, c'est difficile. Alors le portrait robot de l'Arménien est plus simple parce qu'on voit des Charles Aznavour partout. Mais les femmes incluses. Hein. Il y a des monsieur Charles Aznavour et des madame Charles Aznavour. Il y en a plein. C'est vraiment rigolo, quoi. Par contre, on voit deux... Enfin, je dirais... Allez, on va caricaturer un peu. En tout cas, on voit trois types, disons. Un premier type qui est vraiment le Perse. On peut imaginer les livres d'Astérix et Obélix. Des nez comme ça, très très longs, très droits. Et puis des figures un petit peu allongées, les yeux noirs, les cheveux très noirs aussi. Un côté comme ça... profil grec aussi, avec vraiment des bons nez, hein, bien marqués. Ensuite, on a la partie vraiment beaucoup plus russe, alors des visages plus ronds comme ça, avec la tête un peu plus plate. Alors, il y a des tronches burinées, il y a des carrures, mais c'est violent. Donc, c'est sûr que les mecs, ils sont bons au rugby et à la boxe, ils adorent ça. On voit quand même des sacrés morceaux, quoi. Et je dirais ensuite, il y a un type assez européen, une espèce de mixture. Alors, évidemment, après, il y a tout ce qu'il y a entre deux, hein, ça c'est un peu infini.
Là, vous nous parlez surtout des hommes. Est-ce que c'est parce que les femmes en Géorgie, elles ont une place plus traditionnelle, avec encore un foulard, même si bien sûr elles sont chrétiennes, avec une place bien définie, ou les femmes sont dans la rue et on les croise et plutôt émancipées ?
Non, les femmes sont émancipées dans la rue. Alors on sait que on a passé quelques jours chez des amis géorgiens. L'hospitalité ici, en Arménie et en Géorgie, c'est quelque chose de très important. Donc les gens sont extrêmement hospitaliers. C'est assez génial. Mais les femmes sont clairement émancipées. Par contre, c'est vrai que les gens ont l'air de se marier tôt et d'avoir des enfants tôt. Et ça reste relativement patriarcal, je dirais. J'ai un peu l'impression quand même... Alors, c'est subjectif, hein, c'est une impression, mais clairement que les hommes encore sont... ils vont s'asseoir à table, attendre que madame fasse son travail de femme, comme ça. Hein. C'est un peu old school, on va dire, quand même. Hein. Mais de façon générale, ça reste assez moderne.
Vous nous parliez d'une rivalité avec l'Arménie.
Ah, les deux pays, on sent que c'est vraiment quelque chose. Il faut pas venir chatouiller un petit peu trop fortement. C'est déjà de qui a été le premier pays à devenir chrétien. Alors ça déjà, c'est genre nous on est plus vieux, etc. C'est sûr que la Géorgie est plus développée, et ça c'est quand même évident. Bon, en même temps, l'Arménie a vraiment souffert de la guerre. Donc il y a eu un génocide aussi avec de la part de la Turquie. Et elle s'est retrouvée en fait en guerre contre la Turquie et l'Azerbaïdjan. La Turquie depuis a à peu près normalisé ses relations, mais l'Azerbaïdjan garde sa frontière fermée. Et les deux pays ont pendant un bon bout de temps en fait eu des sanctions économiques à l'égard de l'Arménie, qui s'est retrouvée vraiment coincée en fait, pris en tenaille entre les deux, avec une très peu de possibilités de se développer. Donc c'est vrai qu'ils ont un peu plus subi, on va dire, de ce côté-là. Ça n'a pas été facile, je pense, pour le pays, mais je ne sais pas encore beaucoup plus sur l'histoire. On attend d'en apprendre un petit peu plus. Les gens ici sont très faciles d'accès, ils sont très sympathiques. Je dirais que pour l'approche directe, les Arméniens gagnent un peu par rapport aux Géorgiens. Les Géorgiens sont plus russes. Alors, les Russes, moi, je les imagine un peu comme... Enfin, je les décris un peu comme des Scandinaves, le visage un peu fermé, mais avec un cœur d'Italien. Donc, il faut passer, en fait, la première couche pour ensuite qu'ils se réchauffent vraiment. Mais c'est vrai qu'au départ, quand ils vous parlent, c'est aussi une langue qui demande du sérieux quand elle est parlée, quoi, on a l'impression. Donc, ils sont très... ils peuvent être... très sévère, comme ça, on a l'impression que c'est un peu qu'on dérange. Quoi. Mais très très vite, en fait, on se rend compte que les gens sont hyper sympathiques. Par contre, c'est vrai qu'en Arménie, ils arrivent, ils sourient tout de suite, ils sont super sympas. C'est vraiment très facile. Donc, alors là, je donne le point à l'Arménie. Les sourcils, je donne le point à l'Arménie aussi, parce qu'ils sont champions du monosourcil, c'est formidable. Mais enfin, pour en revenir à l'histoire, voilà, effectivement, je pense que le mieux, c'est de bien vérifier ce que je vous dis là, mais je crois effectivement que le pays a pas mal souffert pour le développement.
Du coup, on le voit quoi ? On le voit dans les villes, on le voit dans les infrastructures, dans ce genre de détails ?
Oui, on le voit bien, ouais, c'est quand même... alors, les villes, il y a énormément de bâtiments en ruines, il y a des plantes qui poussent de tous les côtés... Mais en même temps, il y a énormément de charme. Il y a énormément de Lada un peu partout, ces vieilles voitures de l'Allemagne de l'Est. Ouais, on voit quoi, on voit beaucoup de bâtiments qui tombent en morceaux.
Pour point de vue gastronomie, l'Arménie, c'est comment ?
Alors, là aussi, point de contentieux entre la Géorgie et l'Arménie, qui a la meilleure nourriture ? À vrai dire, ça se ressemble beaucoup entre les deux. Ici aussi, ils vendent les fameux rajapouli dont j'avais parlé la dernière fois, c'est-à-dire ces pains au fromage. Énormément de tomates, donc on trouve des salades de tomates, concombres, mais souvent aussi avec une petite sorte de sauce plutôt pesto, un peu comme ça, avec aux noix, qu'ils aiment bien mettre comme ça avec cette salade, qui est très très bonne. Ils font aussi des tranches d'aubergines enroulées avec justement cette espèce de pesto aux noix à l'intérieur. Ça, c'est vraiment bien bon. Voilà, le reste est assez standard. On retrouve un petit peu aussi quelques plats un peu européens, plus classiques. Poulet frites, évidemment. Comme ça, on est bien. Hein. Comme ça, on garde un fil conducteur. Je voulais aussi dire, l'Arménie, ils conduisent quand même moins comme des cinglés que les Géorgiens. Parce que le Racing Club Géorgie, il casse la baraque. C'est vraiment des fous furieux, quoi. J'ai jamais vu des gens comme ça au volant. C'est très impressionnant. Donc, on est content d'en être sorti vivant.
Mais c'est ça, parce que vous dites ça en souriant, mais c'est tragique.
Ah non, mais il y a eu des moments où on a flippé, mais vraiment, quoi. On a fait des trajets qui devaient durer 3h30 en 2h, à du 140 dans des routes de montagne, dans des bus. Non, mais c'était dingue, quoi. C'était vraiment totalement dingue. Ils ont peur de rien. Les types, ils sont surconfiants, quoi. Ils y vont comme ça avec leur voiture. Et puis, ouais, je sais pas, ils doivent trafiquer leur moteur. Ils sont complètement... Puis en même temps, avec le téléphone, la clope au bec et tout y passe, tous les clichés, c'est vraiment sensationnel. Alors je suis un peu vache pour les Géorgiens de dire, parce que forcément, il y en a, enfin, tous ne conduisent pas comme ça, mais c'est quand même, il y en avait quand même pas mal, on va dire.
Réalisation Christian Morero, un grand merci à Alexandre Cracker. Vous pouvez le suivre sur Instagram, il a un compte AJS Cracker. Et puis, sa compagne a aussi un compte Nano the Gnome. La suite de leur voyage, eh bien, on leur a tout simplement demandé ce que ce serait.
Alors, on va continuer vers le lac Sevan, qui est un grand lac dans le nord de l'Arménie. Ensuite, on va descendre vers la capitale, aller voir quand même ce que Yerevan nous réserve. Ensuite, on va continuer un peu plus vers... l'Est et le Sud, aller voir encore quelques monastères perchés sur les montagnes et puis quelques sites préhistoriques. Et ensuite, on va descendre vers l'Iran. Donc on pense arriver en Iran aux alentours du 10 octobre. Et à partir de là, on aura un mois pour découvrir les splendeurs de l'Iran, dont on se réjouit énormément.
Il nous reste un globe-trotteur à suivre, Sylvain Nicolier au Madagascar. Mais avant cela, on va écouter le choix de Nathalie Schauenberg, un choix inspiré par le récit de voyage d'Alexandre Cracker. Nathalie, elle a choisi une star de la pop arménienne. Et franchement, ça vaut le coup. Il s'appelle Tata Simonian et on y est.
À l'abordage, 15h, 16h30.
Հետներ, արա հետներ, նման ու տարբեր, ճանապարը, ճանապար չի, եթե չունես ընկեր, այսքան քխաղ է չար ու բարի, եկեք խաղանք մենք մենակ բարին, այսքան քխաղ է չար ու բարի, եկեք խաղանք մենք բարին, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այսքան քչե առանց ընկերու, առանց ընկերու. We'll be right back.
C'est une star de la pop arménienne, il s'appelle Tata Simonian. Tchikareli, c'était le choix de Nathalie Schauenberg. Et franchement, on la remercie parce que ça fait du bien vendredi après-midi. On continue à suivre nos Globetrotters. Voici à présent Sylvain Nicollier. Sylvain, c'est un projet qui s'appelle Suisse-moi. Un projet sur les réseaux sociaux, des voyages où il demande à ceux qui le suivent des défis. Des défis qu'il relève ensuite dans les pays qu'il visite, qu'il relève pas toujours parce qu'il n'est pas non plus complètement fou. Vous entendrez un exemple dans l'élément qui suit. Sylvain Nicollier, c'est pas un débutant en termes de voyage. Il a traversé le Mexique tout jeune avec une voiture achetée sur place. Et depuis, il est parti notamment au Cameroun ou en Albanie. Cette fois, il est au Madagascar. On lui avait parlé 12 heures avant son départ. Un voyage qu'il a préparé notamment grâce à des connaissances malgaches à Lausanne, des connaissances malgaches en Suisse qui avaient activé leur réseau. Et du coup, Sylvain Nicollier était attendu sur l'île. Des amis malgaches suisses qui aussi n'arrêtaient pas de mettre Sylvain en garde. Attention, notre île est dangereuse. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? On va en parler avec Sylvain. Mais du coup, ses amis malgaches avaient tout fait pour que Sylvain arrive en confiance. Une réalisation de Christian Morero.
De nous rassurer, on était accueillis à l'aéroport par un colonel qui est venu nous chercher en 4x4 pour nous amener dans une maison. Donc on a commencé par nous prêter une maison proche de l'aéroport. Donc une personne que je connaissais pas avant, qui habite Lausanne, on a des amis en commun malgaches. Et du coup, on a pu profiter de cette maison pour se poser. On était dans un quartier justement résidentiel avec que des malgaches. On n'était pas avec les touristes dans les quartiers au centre-ville. Alors, c'est vrai que la ville, elle est un petit peu encombrée. Hein. Il y a des bouchons, on ressent la pollution. C'est pas encore le paradis. Alors déjà, c'était étonnant parce qu'on arrivait, il faisait frais. Et en fait, elle est à 1400 mètres d'altitude. Et au milieu de la ville, il y a des rizières. Donc il y a différents quartiers, puis au milieu, c'est séparé par des plantations de riz et d'autres légumes. Il y avait ça qui était assez étonnant. C'est une ville aussi qui est assez étendue. C'est pas des grands bâtiments comme dans les villes modernes. Bien sûr, il y a un centre d'affaires et puis certains bâtiments sont élevés, mais c'est pas mal de petits bâtiments. Certains la décrivent comme un bidonville géant, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment vu ce côté-là. Après, oui, les bâtiments sont pas tous en bon état. Certains sont un peu construits avec ce que les gens y trouvent. Il y a un peu de circulation. Il y a une route vraiment principale qui passe de l'aéroport au centre-ville. Et puis, c'est une ville aussi qui est construite sur différentes collines. Donc, on peut prendre de l'altitude pour voir notamment des palais, des belles demeures. Il y a des musées. Et puis, on a des belles vues. Et puis après, on a navigué dans différents endroits. On est arrivé en premier à Nosy Be. Ils appellent ça l'île au parfum. C'est une île très belle qui est tout au nord de Madagascar. C'est un des endroits les plus touristiques. Mais c'est aussi un des endroits où il y a des plages incroyables, où il y a des petites îles autour avec des couleurs juste magnifiques. Donc pour commencer, on a décidé, on va se poser là-bas. On a aussi assisté à un combat de Morengue. C'est un défi que j'ai reçu, mais je n'ai pas voulu le faire parce que c'était trop dangereux.
C'est quoi, c'est un sport de combat traditionnel de l'île ?
Voilà, c'est un sport de combat traditionnel de tout Madagascar. Ça se pratique les dimanches, mais je crois que c'est vraiment partout. Et avant, il y avait vraiment une technique propre de combat. Et puis après, c'était influencé par le taekwondo, par les différents arts martiaux. Et maintenant, c'est de la baston, quoi. Je veux dire, ils se protègent à peine et ils s'envoient des coups de poing et des coups de pied le plus vite possible pendant un temps réduit. C'est assez impressionnant.
Sylvain Nicolier, vous dites « Heureusement que j'y ai pas participé » parce qu'on rappelle, vous, votre projet, enfin votre manière de voyager, c'est « Suisse-moi ». C'est-à-dire c'est un site, on peut aussi vous suivre sur les réseaux sociaux et puis on peut vous lancer des défis, on peut vous donner des challenges. Généralement, c'est manger des piments, mais ça peut être autre chose. Là, il y avait quelqu'un qui vous avait dit « Vas-y Sylvain, participe aux luttes traditionnelles ».
Voilà, la Diamanga, c'est un défi que j'ai reçu de participer à la Diamanga. Et volontairement, je ne l'ai pas fait parce que je me serais fait amocher. En plus, ils auraient vu un blanc. Vouloir tester ce genre de choses, ils avaient intérêt à être vraiment bien entraînés. Et eux, c'est des bêtes, quoi. Je veux dire, c'est des gars, ils font ça de leur vie, ils sont super musclés et ils ne sont pas là pour rigoler. Hein. Sans protection, donc j'aurais bien ramassé.
Vous avez fait quoi comme autre défi ? Là, on est au début, hein, entre la capitale et puis le nord de l'île, c'est cet endroit très beau et touristique. Vous avez fait quoi comme défi, notamment là, au début de votre voyage ?
On a fait quelques défis, comme par exemple nager avec des requins-baleines. Et puis c'était génial de rencontrer ce requin-baleine. On est arrivé sur place, on a dit « Ouais, c'est pas la saison, ça va pas être possible ». On a embarqué sur le bateau et après 2 heures de navigation, ils ont reçu un appel d'autres personnes en bateau et on a pu nager avec un requin-baleine. Et ça, c'était vraiment exceptionnel parce qu'il y a une bonne visibilité. On a sauté du bateau, il était tout de suite à 1 mètre de nous. Ça doit faire, je crois, 7 mètres de long. Donc on a nagé derrière lui, après à côté. Et pour finir, il a commencé par se tourner et je me suis retrouvé face à sa bouche, mais à 1 mètre de sa bouche, gigantesque. Et heureusement, il mange pas les humains. Il n'est pas carnivore et j'étais bien content. Mais j'ai eu quand même un peu peur.
Ça ressemble à quoi un repas malgache ?
Alors, beaucoup de riz, hein. Et c'est des grosses portions. Et chaque fois, on nous sert du riz, mais en masse. Et là, on nous forçait presque à manger. C'est-à-dire qu'on devait dire le nombre de cuillères de riz. Puis si on tournait la tête, il y avait tout de suite une cuillère de riz supplémentaire qui arrivait. Et un des repas que je me rappelle bien, je ne me rappelle plus le nom par contre, avec du lait de coco. Donc on prend une noix de coco, on la coupe en deux et on va râper donc la pulpe de la coco pour après en faire du jus. Et ils mélangent ça avec des feuilles de manioc. Il s'appelle, ah oui, le raftuto. Et on mange ça après avec du riz, c'est excellent. Et avec le piment, ça ajoute en plus des saveurs supplémentaires. Et ça prend quand même un bon moment de préparation parce que râper la noix de coco, on m'a dit il faut pas râper trop fort, sinon après ça, le jus s'enlève pas. Donc c'est bien, je pense, 1 heure de préparation, mais après c'est vraiment bon. Et ça, c'est le repas traditionnel malgache, celui qu'on trouve le plus facilement.
Ils ont des spécialités un peu étonnantes pour un Européen ou pas vraiment ?
Oui, le premier jour, on a mangé de la langue de zébu, des tripes de zébu, et il y avait du museau de zébu aussi. Donc l'équivalent de la vache, c'est le zébu là-bas, on mange beaucoup de zébu, et ils mangent vraiment toutes les parties du zébu. On a mangé de la peau aussi avec des poils, des pieds de zébu, quoi. Il y a vraiment la totale.
Et ça, c'était bon ?
Ça dépend des parties. C'est assez bon. Maintenant, il faut voir comment la viande elle est traitée. On croise des vélomoteurs ou des vélos avec une centaine de bouts de viande qui pendent de chaque côté du guidon. Et ça, il fait 30 degrés, ils se baladent sur les routes poussiéreuses de village en village pour vendre leur viande. Ça fait pas vraiment envie. On se demande un peu, est-ce qu'on va tenir après avoir mangé cette viande-là ? Donc bien sûr, on la mange pas saignant. Elle est souvent bien grillée. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas des tranches de viande saignante qu'on connaît à la maison.
On parlait avant votre départ du danger, Madagascar, c'est souvent, si on fait une recherche sur internet, ou même vos amis malgaches tout de suite parlent, Madagascar c'est dangereux quand on est un touriste. Maintenant que vous y êtes depuis plusieurs semaines, qu'est-ce que vous pouvez en dire?
On n'a pas senti ce danger-là, à part que les gens nous disent toujours faire attention, donc on fait quand même un minimum attention. Après, le danger, il évolue. Par exemple, là, justement, il y a une épidémie de peste actuellement à Madagascar. Et du coup, on est vigilant, on essaie de voir où ça se passe. Et surtout que là, on est arrivé aujourd'hui dans la capitale. Et puis, il y a eu plusieurs morts ces derniers jours ici. Donc, on essaie de faire attention, pas se mêler à des groupes de personnes. De toute façon, tous les événements publics ont été annulés. Donc, il y a quand même, au niveau sanitaire, des dangers plus que se faire, je pense, agresser dans la rue, voler. Et puis toujours, on oublie, mais avant tout, je pense que c'est les transports qui sont dangereux. Les gens, souvent, dans tous les hôtels quasiment, on va, dès qu'on croise des touristes, ils nous disent « Ah, mais oui, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a eu un touriste qui s'est fait agresser. » Super. Et les accidents sur la route, je pense qu'on n'en parle jamais. Alors que le danger, je pense qu'il vient vraiment de là. Ils ont une manière de conduire qui est dangereuse, autant pour les piétons que ceux qui sont sur la route. Les voitures sont souvent en très mauvais état. Et quand un chauffeur il va faire 36 heures d'affilée en mâchant des trucs stimulants, moi, j'ai pas trop confiance.
Entre le moment où vous étiez au nord, dans cette région touristique, où vous avez notamment nagé avec un requin-baleine, et là, vous êtes de retour à la capitale, vous avez fait quoi entre deux?
Il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé dans la communauté de faire du kitesurf. Donc c'est un sport à la mode, on est tiré par un espèce de cerf-volant géant à une planche. Et j'avais pratiqué juste quelques heures aux Philippines l'année passée. Et plusieurs personnes m'ont proposé des lieux particuliers pour le pratiquer, comme la baie de Sakalava ou alors Babaambi, qui est une plage reculée près de Diego, aussi au nord de Madagascar. Et du coup, on a passé 5 jours à prendre des cours de kitesurf pour essayer d'être meilleur, pour faire des images aussi. Et c'était génial. On a découvert vraiment ce sport. On s'est surpassé parce que c'est pas facile du tout. On a commencé dans une baie qui était plate, où il n'y avait pas trop de vent. On y arrivait. Et ensuite, on est allé dans l'océan avec des vagues. Et il y a une marque de kitesurf suisse qui m'a proposé un défi, c'est de faire une expédition de kitesurf avec eux. Et je ne l'avais jamais fait, ça s'appelle du downwind, c'est-à-dire suivre le vent direction une piscine naturelle. Ils sont venus avec un bateau suiveur et c'était un peu le bordel. Moi je suis parti, donc mon kitesurf, j'ai direct tout emmêlé, on m'a fait remonter sur le bateau, on m'a dit c'est pas possible, t'es trop nul. Après, ils m'ont lâché en pleine mer avec mon kite et puis une personne de cette marque et j'arrivais pas, j'ai perdu tous mes repères. Et ça a été un vrai défi pour moi. Et pour finir, j'ai réussi. J'étais vraiment content. J'ai réussi, après, je sais pas, 20 minutes, retrouver un peu mes repères, refaire confiance à la planche, m'habituer aux conditions. Et puis, j'ai pu descendre jusqu'à cette plage. C'était trop bien.
Mais pour finir, j'ai réussi grâce à toi. Merci en tout cas.
Sylvain Nicolier, vous avez l'habitude des voyages, vous êtes allé dans plein de pays, vous êtes allé récemment en Albanie, vous êtes allé au Cameroun, Madagascar. Qu'est-ce que ça vous évoque si je devais vous demander ça? C'est compliqué parce qu'un pays c'est toujours plein de facettes, il y a plein de choses. Mais qu'est-ce que vous ressentez là après quelques semaines, vous qui avez l'expérience du voyage?
Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses. Après moi ce que j'aime bien c'est aussi voir les petits détails qui font que ce pays est différent. Par exemple, au nord on a fait 5 jours en 4x4 pour rejoindre deux régions différentes. Il y avait une particularité hyper drôle, c'est que chaque village avait sa spécialité artisanale. Un village, il faisait que des poubelles. On passait au village suivant, il faisait que des balais. Le village suivant, il cassait des cailloux. Enfants, femmes, adultes, tout le monde, tout ce qu'ils faisaient, ils étaient assis sur un tas de cailloux. Ils cassaient des cailloux, ils revendaient au kilo des cailloux cassés. Et quand on voit ces gens-là qui travaillent pour un salaire de misère, des boulots vraiment éreintants, ça fait mal au cœur. Hein. La vie est dure pour certains. Dans certains villages, là, franchement, certaines fois, nous, on était avec notre confort, avec notre 4x4, etc. Et puis, on voit des gamins en train de taper sur des cailloux pour les casser. On se demande aussi quel est leur avenir.
C'est ce qui vous frappe. C'est principalement la difficulté de vivre sur l'île.
Mais disons que ça, moi, je pense que ça me rend attentif à la réalité du monde. Je trouve qu'en Suisse, on vit dans un nuage où on a quand même un pouvoir d'achat qui est super, surtout quand on va à l'étranger, on se met toujours que la Suisse est chère et puis que notre assurance maladie a augmenté de 4%. Mais quand on voit les conditions de vie à l'extérieur, ça fait vraiment réfléchir. Et puis moi, ça me fait toujours marrer. Si je suis sur les réseaux sociaux, puis je vois quelqu'un en Suisse qui se plaint que le train a 4 minutes de retard, et puis que c'est horrible, et puis que c'est la fin du monde. Non, on discute avec les gens ici aussi, de la richesse, de la pauvreté, du fait d'être heureux. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Après, oui, on a envie d'aider. Nous aussi, c'est toujours la question, comment on va aider? Je sais qu'il y a des associations sur place. On va sûrement rencontrer certaines durant le voyage. Pourquoi pas leur donner de la visibilité? Puis après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des pourboires conséquents justement aux gens qu'on rencontre dans leur travail, notamment ceux qui bossent dans les hôtels. On sait qu'ils ne gagnent pas beaucoup. On donne facilement un salaire mensuel à une équipe qui travaille. Et puis ça, je pense, c'est des choses concrètes qui peuvent les aider.
Réalisation Christian Morero. Quelques mots peut-être sur cette épidémie de peste au Madagascar. En tout cas, nous, quand on l'a entendu, on s'est dit, mais c'est incroyable, la peste existe encore. On ne le sait pas forcément, mais cette maladie terrible n'a jamais été tout à fait éradiquée. Depuis 1980, de temps en temps, elle est active sur l'île de Madagascar. Selon l'OMS, elle s'y développe parce qu'elle se développe, cette maladie, dans les milieux où les conditions sanitaires sont mauvaises, bien sûr, et les services de santé insuffisants. Mais cette année, la particularité de cette épidémie de peste, c'est qu'elle a déjà fait 33 victimes et surtout qu'elle a gagné les plus grands centres urbains dont la capitale. Voilà, c'est pas pour vous faire peur ou pour vous dire de ne jamais aller au Madagascar, mais parce qu'en 2017, quand on entend épidémie de peste, c'est choquant, il y a un côté un peu médiéval, et ça montre aussi, une fois de plus, les immenses disparités entre les régions du monde. Et là, on parle pas seulement des différences entre Morges et Genève. Sylvain Nicollier, il a réalisé de nombreuses vidéos, on peut le suivre, on peut voir ce qu'il a vécu, elles sont très bien faites sur l'île de Madagascar, tout ça sur son site Suisse Moi en un mot.ch. Et puis alors, la prochaine fois qu'on va l'entendre, où sera-t-il?
Alors, on va partir sur la Namibie et peut-être l'Afrique du Sud. J'ai un rendez-vous le 4 décembre avec ma mère et ma sœur en Namibie. On va faire un tour de 2-3 semaines. Et d'ici là, on ne sait pas. C'est vrai que là, il y a l'épidémie de peste qui arrive sur Madagascar. Ce serait un élément qui pourrait tout d'un coup, si ça devient trop dangereux, nous faire quitter Madagascar avant. Pour l'instant, c'est gérable. On va partir pour un trek après-demain, un trek de quelques jours, et ensuite une randonnée, quoi, un trek à pied, ensuite en pirogue, descendre dans les rivières pour quitter justement les zones urbaines. On va aller vraiment voir la campagne, se mêler aux habitants. Et puis découvrir les ARP.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade aux pommes préparée à cappella. Du miel suffit à clarifier ma voix. L'aspartame à sa mère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids. Je ne mâche pas, je ne mâche pas. mes mots. Je ne mâche pas, je ne mâche pas, je ne mâche pas, je ne mâche pas. Au nom de la castafiore, au cœur d'artichaut, de la tarentelle et du tartare au couteau, du coulis aux phrases et de ma voix dans l'écho. Je ne mâche pas, je ne mâche pas, je ne mâche pas mes mots, mes mots, mes mots, mes mots.
Camille, sur la première, je ne mâche pas mes mots. On va vous parler du reportage que vous pourrez découvrir lundi dans À l'abordage. Lundi prochain, on est le 9 octobre. Ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est un 9 octobre 1967 que le Che Guevara était tué dans le village de la Higuera, en Bolivie. C'est donc pile il y a 50 ans. Un mythe, le Che Guevara, qui évidemment a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer en 1967. Eh bien, notre reportage, lundi, va retourner dans ce village pour se demander quels sont les gens qui viennent en pèlerinage et surtout qu'en pensent les gens qui habitent ce village et certains habitants qui ont connu le Che Guevara et qui ont vécu ces événements le 9 octobre 1967. Ce sera votre reportage du lundi. On écoute un extrait.
Los militares llegaron el 26 de septiembre.
Les militaires sont arrivés le 26 septembre et sont restés jusqu'au 8 octobre. C'est le 8 qu'ils ont capturé le Che dans la Quebrada del Churro. Ils l'ont tué et ont emporté son corps en hélicoptère à Valle Grande. Nous avions très peur. Nous ne pouvions pas sortir dans la rue, on était enfermés chez nous, on pleurait, on avait faim et soif. Nous, on n'était ni du côté des soldats, ni du côté des guerrilleros. Parce que nous, nous sommes des gens de conditions modestes et on ne connaissait pas l'idéal du Che. Pendant que les soldats le gardaient, on avait peur que les guerrilleros viennent pour le libérer. Dans les combats, ils auraient pu nous tuer. Chaque jour, les avions survolaient la Higuera et on nous disait qu'ils allaient lâcher des bombes pour nous carboniser.
Le dernier combat du Che, 50 ans après, ce sera votre reportage lundi dans À l'abordage.